Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion du colloque « Éthique des médias, de l'information au marché » tenu à Montréal en avril 2009. Welcome to the audio podcast of the Media Ethics from Information to Markets Conference that took place in Montreal in April 2009.
Donc, re-bienvenue à cette deuxième partie de notre premier panel sur l'éthique des médias, un point de départ théorique. Donc, notre prochaine participante est Julie Miville-Deschênes, qui a complété un baccalauréat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et a obtenu une maîtrise en journalisme à l'Université Columbia de New York. Elle travaille à la Société Radio-Canada depuis 1977, où elle a occupé successivement des postes de documentaliste, de rédactrice, puis de reporter au service des nouvelles radio et télévision à Montréal. Elle fut journaliste au Téléjournal jusqu'à sa nomination au poste d'Ombudsman des services français le 1er avril 2007. Elle a succédé à Renaud Gilbert. Elle est notamment la première femme à assumer cette fonction à Radio-Canada. En 2008, elle a obtenu le prix Reconnaissance UQAM, qui souligne sa contribution au rayonnement de sa sphère d'activité professionnelle. Donc, Julie Miville-Deschênes.
Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Donc, moi, je me suis concentrée un peu sur ce thème-ci. Les journalistes sont-ils d'abord redevables au public ou à l'entreprise qui paie leur salaire? Tout journaliste qui se respecte, moi la première, vous dira qu'il travaille avant tout pour le public. C'est la vision idéalisée du journalisme. Celui du quatrième pouvoir, uniquement bénéfique, qui éclaire les citoyens, qui leur permet de faire de meilleurs choix démocratiques. Le chien de garde, qui surveille les institutions et les personnes détentrices du pouvoir. Et le défenseur des moins bien nantis, ce qu'on appelait autrefois la veuve et l'orphelin. Alors, il est plus facile d'invoquer ce noble principe pour les journalistes travaillant à Radio-Canada, un diffuseur public, financé pour l'essentiel par les contribuables. Cependant, on n'est pas obligé de fouiller très loin pour se rendre compte de l'existence d'un conflit très réel entre la mission journalistique et la vie commerciale d'une entreprise de presse, et même à Radio-Canada. Donc, non seulement il existe un conflit très réel entre la mission d'informer et la réalité commerciale des entreprises de presse, mais je crois que le contexte actuel de crise économique risque de renforcer les tendances qui existent déjà. Donc, comme je ne suis pas universitaire mais praticienne, je vais plutôt vous donner quelques cas pour essayer de vous faire comprendre un peu les préoccupations que j'ai comme ombudsman. Parlons d'abord de la concurrence de plus en plus féroce à laquelle se livrent les entreprises de presse. Premier exemple qui me semble éloquent. En 1995, Radio-Canada lance sa chaîne d'information continue, RDI. L'équivalent pour certains, enfin, on s'en est tenu ou on a essayé de copier le modèle de CNN aux États-Unis. RDI présentait quand même à l'époque des particularités propres. Par exemple, chaque jour, plusieurs heures d'émission provenaient de différentes parties du Canada. On parlait de l'Atlantique en direct, de l'Ontario en direct, de l'Ouest en direct. Donc, on accordait une grande visibilité aux régions, même si 90% de l'auditoire était au Québec. Ensuite, il y avait une très, très grande place au discours politique fait dans ce réseau d'information continue. Je ne sais pas si vous vous rappelez les élections qui ont suivi tout de suite la création d'RDI, mais on avait des conférences de presse, l'une après l'autre, de telle partie suivie de la réponse. À travers RDI, les politiciens se répondaient. Donc, c'était vraiment un canal qui accordait une grande place à l'information politique. Trois ans plus tard, en 98, TVA, qui au Québec est la principale chaîne privée, la plus regardée des chaînes de télévision, mettait en onde sa propre chaîne d'information continue baptisée LCN. Premier constat, les deux chaînes se ressemblent de plus en plus. Deuxième constat, depuis le début de l'automne dernier, LCN a dépassé RDI et se trouve nettement en avance dans les codes d'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé à RDI? Eh bien, on a jugé qu'il était temps de redonner un nouveau souffle à la chaîne, et c'est ainsi que les émissions provenant des autres régions du pays ont carrément disparu. Bien sûr, contrairement à LCN, RDI va encore diffuser une émission spéciale sur le budget de l'Alberta. Mais les francophones hors Québec, et on me l'a fait savoir au bureau de l'Ombudsman, trouvent que RDI n'a jamais paru aussi québécois. Un virage pris, évidemment, en grande partie pour regagner des codes d'écoute. C'est un peu la même chose pour le discours politique. Si un premier ministre ou un ministre a quelque chose d'important à annoncer, il a intérêt à être bref, parce que s'il veut qu'on le diffuse du début à la fin, il ne faut pas que ça soit trop long. Les gens qui mettent en onde les discours sont convaincus, peut-être à juste titre, qu'après 5 ou 6 minutes, le téléspectateur, lassé, veut passer à autre chose. Il faut donc interrompre le discours pour lui donner à ce téléspectateur, si possible, une nouvelle de dernière heure. Et de quoi s'agit-il? C'est souvent une histoire assez simple. Par exemple, sur un campus du Midwest américain, un type est entré dans une classe, a tué une femme qu'il a quittée la veille, puis s'est tiré une balle dans la tête. Avant d'avoir les premières images d'une station locale, il se sera écoulé une heure ou deux. Lorsqu'on interrompt le discours politique, c'est parce que ces images de faits divers viennent d'arriver. On met donc un gros bandeau rouge en bas de l'écran, dernière heure, et on ne raconte qu'une partie de l'histoire. On dit que l'université est paralysée, en lockdown, à cause d'un échange de coups de feu, que la police est sur place. À l'écran, on voit des autopatrouilles, beaucoup de gyrophares, des forces spéciales avec équipement militaire. Veut-on vraiment informer le téléspectateur ou le garder rivé à son petit écran en créant un impact émotionnel maximum, une excitation des sens, une overdose d'informations? Je vous laisse répondre à cette question. D'ailleurs, la prochaine fois qu'un gros fait divers survient ou semble survenir, observez bien les tactiques de plus en plus à la mode en ce moment dans les chaînes d'information. Vous entendrez des entrevues de francophones de la ville où l'action se déroule. Remarquez que ce ne sont absolument pas des témoins, mais il faut bien mettre quelque chose en onde. Ils vivent ou ils travaillent à 1 kilomètre de l'endroit où les faits sont survenus, et les recherchistes les ont trouvés en communiquant avec tous les restaurants du bottin téléphonique ayant un nom français. Le monsieur ou la madame journaliste web, devant son écran tactile, nous a déjà présenté la rue ou le building grâce à Google Earth, théâtre de l'événement, mais il revient en onde demander aux spectateurs de commenter. Commenter quoi? On ne sait même pas encore de quoi il s'agit, s'il s'agit d'une tuerie ou d'une querelle de ménage. Ce n'est sans doute pas très grave parce que le but premier n'est peut-être plus d'informer. Ce qui compte, c'est de battre l'adversaire, d'avoir une meilleure part de marché. Il faut donc garder ses spectateurs et captiver ceux qui se joindront à l'antenne en cours d'événement. Résultat, on donne aux spectateurs plus d'informations, mais de moins bonne qualité. La concurrence entre entreprises de presse se transporte aussi dans les rédactions, où l'on ne se gêne plus pour attaquer directement l'adversaire. Par exemple, depuis plusieurs années, Radio-Canada et Québécois, qui possèdent la chaîne privée la plus importante de télévision, je vous parlais de TVA tantôt, de même que les quotidiens qui ont le plus fort tirage au Québec, donc ces deux empires sont en guerre ouverte. Les journaux de Québécois mènent une couverture acharnée, diront certains, de tous les déboires de Radio-Canada, en multipliant les articles sur les comptes de dépenses de ses dirigeants, ses problèmes de code d'écoute, etc. Et même les révisions de l'Ombudsman, mon travail, devient un outil dans cette guerre entre médias. Pourtant, la direction et les journalistes du Journal de Montréal ont toujours prétendu qu'ils agissaient avec la plus grande objectivité et que leur couverture de Radio-Canada respectait entièrement la déontologie. Mais en janvier dernier, le Journal de Montréal a mis ses journalistes en lock-out, et ceux-ci ont changé de discours. Je ne sais pas si vous lisez Frontenac, le journal des lock-outés. Si l'on se fie donc à leurs écrits, la couverture de Radio-Canada, qu'on les forçait à faire, tenait bien davantage de la guérilla urbaine que de la recherche d'un prix Pulitzer. Autrement dit, tant qu'ils recevaient leur chèque de paie, certains journalistes de Québécois oubliaient la déontologie pour défendre leur entreprise en assommant son concurrent. Et du côté de Radio-Canada, bien sûr, il y a une guerre de mots là aussi, Et il est bien rare qu'on invite des journalistes du Journal de Montréal à commenter l'actualité sur nos ondes, alors que la porte est grande ouverte pour ceux de la presse qui font partie de l'Empire Giscard. Difficile de croire un hasard. Les entreprises de presse se servent aussi de leur contenu en information pour mousser leurs produits plus commerciaux. À deux reprises, le Conseil de presse du Québec a blâmé le réseau TVA pour avoir fait de la promotion de ses émissions dans le cadre même de ses bulletins de nouvelles. Dans un cas, on avait placé en ouverture du grand bulletin de 22 heures une entrevue avec une des premières gagnantes de l'émission Le Banquier. C'est une émission pour les Américains qui a été adaptée de Deal or No Deal, je crois, aux États-Unis. Cela dit, soyons justes, Radio-Canada fait aussi de l'autopromotion jusque dans ses bulletins de nouvelles. Le téléjournal a diffusé des reportages, par exemple, sur la série Les Invincibles ou sur Virginie, deux dramatiques du prime time de Radio-Canada. On fait valoir que la télé fait partie de la culture populaire. Je veux bien, mais si ce sont vraiment des nouvelles, comment se fait-il qu'à Radio-Canada, on ne parle jamais de Star Academy ou de quelque émission que ce soit présentée par une autre chaîne? C'est triste à dire, mais bon nombre de journalistes au Québec acceptent d'appliquer une déontologie, disons, plus souple, en considération des intérêts commerciaux de leur employeur. Ils se livrent de façon peut-être involontaire, mais en tout cas consciente, à un dangereux mélange des genres, de la promotion, d'autocensure et de désinformation. En 2009, en ce moment, donc, les revenus publicitaires sont en chute libre et les télévisions se battent pour conserver leur auditoire. Va-t-on assister à un relâchement encore plus grand des règles déontologiques? Évidemment, la question est ouverte, je ne prétends pas ici y répondre, mais certains indices nous laissent croire que oui. En terminant, je voudrais souligner que le danger s'accroît lorsque l'information et les intérêts corporatifs se trouvent directement confrontés. Par exemple, Radio-Canada a annoncé récemment qu'elle devait éliminer environ 800 postes. On peut dire que la direction et les journalistes de Radio-Canada n'ont pas hésité à se servir de leur antenne pour donner de l'importance à cette nouvelle. Selon Influence Communication, une compagnie qui mesure l'espace occupé par une nouvelle dans les médias québécois, Radio-Canada a consacré pas moins de 14 % de son temps d'antenne en info dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce à parler de ses propres déboires. Chiffre de 40 % ça semble peut-être normal, c'est tout de même frappant si on le compare aux 2 % accordés en moyenne par les médias québécois à une annonce de perte d'emploi. Le citoyen ordinaire peut certainement se demander pourquoi un emploi perdu à la Société Radio-Canada a plus de valeur aux yeux des journalistes qu'un emploi perdu chez Bombardier. Et entendons-nous, je ne parle pas ici du grand débat sur la télévision publique, mais purement de cette coupure d'emploi ici. Dernier élément de préoccupation, cette nouvelle selon laquelle le gouvernement fédéral s'apprête à donner 150 millions de dollars pour sauver l'information télévisée régionale faite par le privé à la grandeur du pays. Il faut comprendre, pour ceux qui ne sont pas du pays, qu'un des deux grands réseaux privés généralistes Global et son propriétaire Canwest sont au bord de la faillite. L'autre grand réseau, CTV, n'en mène pas large et a déjà annoncé la fermeture de deux stations locales en Ontario. Évidemment, les stations de télé sont frappées de plein fouet par la crise. Les grandes entreprises du secteur automobile ou les banques annoncent moins que par le passé. Et c'est la même chose pour de nombreuses compagnies de commerce au détail. Le gouvernement fédéral va donc inclure dans son plan de relance économique 150 millions pour la télé. On ne sait pas quelle forme cette aide prendra. Mais comme il faut agir vite, il est possible que le gouvernement achète tout simplement de la publicité dans les bulletins de nouvelles et les émissions d'affaires publiques des marchés locaux pour remplacer celles qui ont disparu. Cette nouvelle soulève plusieurs questions. D'abord, s'il s'agit vraiment d'achats de publicité, on peut peut-être s'attendre à des problèmes d'ordre éthique. Ces achats seront massifs et souvent il est difficile de différencier entre de la publicité gouvernementale et la propagande du parti au pouvoir. Ensuite, depuis que les conservateurs ont pris le pouvoir au Canada, ils emploient une politique de communication très particulière. Ils essaient d'éviter la presse parlementaire et ils tentent plutôt de faire passer leur message via les médias locaux. Par exemple, lorsque le premier ministre Harper fait une annonce où il tient un point de presse, il préfère parler à Lévis ou à Red Deer en Alberta plutôt qu'à la colline parlementaire. Et ce sont justement ces médias locaux qui sont dans la mire du Parti conservateur qui vont recevoir l'aide gouvernementale. Nous sommes tous favorables à une information régionale locale forte, qui peut compter sur des moyens suffisants pour faire son travail. Mais financer des médias n'est pas la même chose que de s'engager à honorer la garantie d'une Chevrolet Malibu ou d'un PT Cruiser. Les médias qui recevront l'aide du gouvernement vont informer les citoyens et influencer leur opinion, peut-être même leur vote à la prochaine élection. Et pourtant, jusqu'à présent, peu de groupes soucieux de l'éthique journalistique n'ont émis le moindre questionnement à propos de ce nouveau programme. Et ce ne sont certainement pas les grands réseaux de télévision qui seront les premiers à le faire. De plus en plus, semble-t-il, dans notre univers journalistique, on croit à ce vieil adage « Ne mords pas la main qui te nourrit ». Merci.
Oui, bonjour, Dominique Martin. Donc, je suis étudiant ici à l'Université de Montréal et au CREUM. Donc, moi, en fait, mes questions portent surtout sur le rôle de Ombudsman. Non seulement parce que, bon, ça me semble un mot excessivement difficile à prononcer, mais parce que je me suis un peu toujours demandé quelle était la tâche exactement. Et j'ai deux questions en particulier. Donc dans votre présentation, vous avez réussi à montrer beaucoup de situations où il y avait des conflits potentiels, bon, entre certaines institutions médiatiques ou même entre les journalistes à l'intérieur d'une institution. Donc, première question, quels sont les outils que vous utilisez pour découvrir ces conflits-là ou les reconnaître? Et deuxième question, quels sont les outils à votre disposition pour agir une fois qu'on s'est rendu compte de ces conflits?
Ici, j'ai envie de vous donner quelques exemples à travers les médias et pas seulement à Radio-Canada sur les tendances qu'on observe. Bien sûr, à titre d'ombudsman, j'ai le temps de réfléchir à ces questions. Mais mon rôle, quand même, au jour le jour, est beaucoup plus terre-à-terre. L'ombudsman pourrait être... En France, on les appelle les médiateurs, mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. L'ombudsman, dans mon cas, d'abord, il n'y a qu'un ombudsman dans tous les médias francophones au Québec. Donc, Radio-Canada est le seul média à avoir un ombudsman. C'est important de le savoir. Donc, j'ai un mandat. Je suis nommée par le conseil d'administration. Je relève du conseil d'administration. J'ai un mandat qui m'assure toute l'indépendance nécessaire pour me prononcer sur des plaintes du public. Donc, ce que je fais, c'est que je reçois les plaintes du public. J'en ai eu, par exemple, 600 sur l'information dans la dernière année financière, à peu près 1000 en tout, mais 600, disons, qui touchaient mon mandat. Moi, mon mandat, c'est l'information Radio-Canada. Ce n'est pas le bye-bye, ce n'est pas les téléromans, c'est juste l'information, d'accord? Alors, j'ai reçu environ 600 plaintes du public. Ces plaintes-là, dans un premier temps, je les envoie à la direction de Radio-Canada, qui a le droit de répondre en première instance. Et dans la plupart du cas, disons-le, ça règle la question. Sauf que le plaignant a un droit d'appel. S'il n'est pas satisfait de la réponse donnée, soit par le journaliste, soit par le patron de presse, il revient à mon bureau et me dit « Je suis insatisfait, pouvez-vous réviser ce dossier ?» Et c'est là et seulement là que s'enclenche la révision de l'ombudsman. Donc, sur une plainte précise, faite par un membre du public, quel qu'il soit, n'importe qui peut faire une plainte, que ce soit un politicien, un groupe de pression, un individu, et je tente de me prononcer de façon la plus indépendante possible, la plus équitable possible sur le fond de la question. D'accord? Et cette révision, qui est une opinion, un avis, est publiée. Tout ce que j'écris est publié sur mon site web, Ombudsman à Radio-Canada. Donc, l'idée, c'est que le reportage a été public et donc l'écrit de l'ombudsman est public. C'est une espèce de réponse au reportage. Et je me base non pas sur la loi et non pas en général sur ce que je crois sur tel ou tel sujet, mais sur des normes internes à Radio-Canada, qui sont des normes éthiques assez poussées, qui s'appellent les normes et pratiques journalistiques. J'en parlais tout à l'heure, des normes qui parlent d'équité, d'intégrité, d'exactitude. Donc, évidemment, il y a une large part à l'interprétation, mais c'est en fonction de ces normes que je dis cette plainte est fondée, non fondée, le plaignant a raison, non, le journaliste a raison. Bref, ça dépend des cas, c'est du cas par cas. Voilà mon rôle. Donc, je fais très peu... Je pourrais, d'après mon mandat, faire de grandes analyses systémiques. Là, j'ai quand même le... Mais je vous avoue qu'étant donné le volume de plaintes, je réponds plaintes. Un peu comme le conseil de presse, mais uniquement pour Radio-Canada. Et contrairement au conseil de presse, je suis seule.
Bonjour. Je voudrais partir de la dernière phrase de votre conférence, que les journalistes sont peu enclins à mordre la main qui les nourrit. Quand on pense un peu, demander de prendre un pas de recul par rapport à, disons, à votre travail pour regarder un peu les médias dans la société, si les journalistes sont peu enclins à mordre la main qui les nourrit et qu'on pense que c'est un problème pour la démocratie qui s'en trouve mal informée parce que les journalistes sont asservis à des intérêts qui sont tous des intérêts particuliers, on peut penser qu'il y a plusieurs solutions et je voudrais vous entendre sur... les différentes pistes, et elles ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. La première, c'est de rendre les journalistes un peu plus... de protéger, disons, les journalistes, ou de les rendre plus enclins, peut-être, sinon à mordre, du moins à mordiller un peu les ongles de la main de ceux qui les... Donc, de travailler sur en quelque sorte au niveau des journalistes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'éthique journalistique individuelle soit un peu moins servile dans la mesure où elle l'est? Deuxièmement, si on pense que c'est pas possible de faire beaucoup de chemin sur ce plan-là, on peut multiplier le nombre de mains qu'il y a, hein, qui nourrissent. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup, beaucoup de journalistes assez serviles, mais comme ils seront asservis à des intérêts qui, pris ensemble, représentent à peu près le spectre des possibles, dans ce cas-là, il y aura...
La diversité.
Il y aura une diversité d'opinions et le citoyen informé pourra y trouver en quelque sorte son compte. Et la troisième voie, c'est de dire, en réponse à la seconde, ce ne seront toujours donc des perspectives très partiales que le citoyen aura. Et c'est beaucoup demander aux citoyens de se faire une vision de la réalité en travaillant parmi ces représentations très partiales qui viennent d'intérêts corporatifs. Et que donc, ce qu'il faut faire, c'est non pas multiplier les mains, mais travailler sur la main, en quelque sorte, faire de sorte que la main soit moins contrôlante. Donc, il y a comme trois pistes là, que j'ai développées à partir de votre image finale, et il y en a peut-être d'autres qui m'échappent, mais je voudrais vous entendre sur la fécondité de l'une ou l'autre, ou la non-fécondité de l'une ou l'autre de ces voies. C'est aller loin au-delà de ce que vous avez
fait. Oui, d'abord, je voudrais probablement nuancer, c'est une jolie fin de reportage, mais de prétendre qu'aucun journaliste au Québec...
Non, mais bien sûr.
Alors, c'est pas ça. C'est qu'à partir des exemples que j'ai tracés, je trouvais que ces exemples-là montraient que dans certains cas, en crise économique, quand l'argent commence à manquer, c'est là que le danger croît. Mais loin de moi l'idée de dire que les journalistes québécois sont serviles et tout. Mais ce que vous me demandez est très difficile. Moi, disons que, évidemment, j'ai un biais. Je crois que la présence d'une télévision publique dans un marché où il y a des privés, de façon générale, aide à diminuer l'impact de la pression, si vous voulez, des propriétaires qui peuvent avoir d'autres intérêts que l'intérêt public. J'ai quand même tenté dans cette présentation, parce que moi, disons que j'étudie davantage Radio-Canada que les autres médias, de montrer que ce n'est pas parce qu'on est un diffuseur public qu'on est par ailleurs au-dessus de tout soupçon. Je crois que c'est important de le dire. C'est trop facile de faire cette distinction, cette dichotomie en disant il y a les bons et il y a les mauvais. L'autre point, et je ne réponds pas tout à fait à votre question, Daniel, mais qui m'a interpellée peut-être avec la présentation de Mme Gingras, était que, et on en a parlé après, on est incapable de faire une preuve de cause à effet entre l'augmentation des conglomérats, entre le fait qu'il y a une concentration de la presse et le fait que les citoyens seraient, entre guillemets, de moins en moins compétents en termes de citoyens ou de moins en moins informés. On n'a pas d'outils qui nous permettent de faire une mesure entre ces deux choses. Et je vous dirais que, de mon point de vue, en tout cas, la diversité, parce que je travaille en ce moment sur cette question-là, ne relève certainement pas uniquement de la concentration de la presse. On peut certainement dire que... parce qu'une grande part de la génération journalistique est composée de baby boomers avec une certaine vision du monde, des gens qui sont encore, par exemple, à Radio-Canada, très présents, très, très, qui sont au sommet de leur forme, bien, ça a un impact, ça, sur la diversité. C'est une question de génération et tout. Alors, il y a des questions plus sociologiques, je vous dirais, qui rentrent dans cette question de la diversité des voix au Québec, qui en ce moment m'interpelle. Je pense qu'on ne peut certainement pas faire un rapport de cause à effet en disant parce que TVA, Québécois, grosse machine, c'est la seule chose qui nuit à la diversité. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le fait aussi qu'on soit une relativement petite société journalistique, donc un bassin de journalistes pas si important que ça, si on compare aux États-Unis, tout ça en soi a un impact sur la diversité. Mais franchement, Daniel, votre question plus large sur ce qu'il faut faire, dire, à Radio-Canada notamment, il y a des mécanismes. Ce que je trouvais intéressant dans ce 150 millions que le gouvernement veut donner en pub, c'est qu'à Radio-Canada, parce que justement c'est une télévision publique et tout, il y a toutes sortes de mécanismes qui font que la pression qui peut être ressentie en haut ne se rend pas jusqu'aux journalistes. Je peux vous le dire pour l'avoir vécu pendant 25 ans, c'est pas aussi simple que ça. Là, il peut y avoir des pressions, mais elles sont, filtrées. Alors, comment ça va se faire dans les médias privés? Je ne sais pas. Je vous dis juste que c'est une question intéressante. C'est-à-dire, publiquement, là, il va y avoir une aide pour sauver une entreprise. Comment cette entreprise va se sentir par rapport au pouvoir? Peut-être que notre collègue de Canouest a des idées là-dessus. Moi, je vous avoue que je trouve juste ça une question intéressante.
Il nous reste à remercier à nouveau